Aujourd'hui, on va commencer une série, donc c'est aujourd'hui, c'est un peu l'introduction aux séries concernant le péché. Donc, c'est assez global aujourd'hui. Je voudrais tourner dans la Bible à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. On va lire versets 1, 4, 5, 6 et 7. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, on voit, on a lu tout à l'heure l'ordre de Dieu. Vous avez toutes les plantes à manger qui ont des graines, mais il y a un arbre dont vous ne devez pas manger. Et puis on voit ici dans le texte qu'on vient de lire qu'ils ont quand même mangé. Ils ont premièrement douté de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Et est-ce que c'était pour votre bien qu'il a dit ça? Ils ont mis en doute la parole de Dieu. Et ils ont pris que leur opinion était plus importante que les paroles de Dieu. Et donc, ils ont agi indépendamment de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, ils faisaient tout en communion avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, ils se sont séparés de Dieu pour vivre indépendamment. Donc, dans le texte, je ne vais pas tout expliquer parce qu'on a déjà vu tous ces versets, mais je voulais dire que quand il dit qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, eh bien, ça représente le fait de leur éclaircissement moral. Ils étaient dans l'innocence avant, ils ne savaient pas. Mais à partir de ce moment-là, ils ont la connaissance du bien et du mal. C'était mieux de ne pas savoir parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Et plus tard, quand nous serons au ciel, nous ne saurons rien du mal. On ne connaîtra que le bien encore. Mais depuis le péché, on connaît le mal. Et puis, je voudrais lire dans les versets 23 et 24. Chapitre 3, versets 23 et 24. Et l'Éternel le chassa, donc en parlant du couple d'Adam et de sa femme, le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi que Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc on voit dans cette partie de Genèse 3 que Dieu a chassé l'homme, donc c'était à l'époque c'était toute l'humanité. Ils l'ont chassé du paradis. Le mot paradis, ça veut dire le jardin de Dieu. Et ils l'ont chassé. Ils ne pouvaient plus accéder. Et on lit dans Romains qu'on est privé à cause du péché. On est privé de la gloire de Dieu. On est coupé du paradis. Alors le péché et ses conséquences sont à la base de tous nos problèmes. Directement ou indirectement, c'est pas toujours que voilà, j'ai fait ça, donc il y a une suite là, mais c'est que je suis sur une planète qui est pleine de péchés et pleine de conséquences des péchés. Donc, les problèmes personnels, familiales, communaux, nationaux, je suis en train de grandir le problème, hein? International, écologique, économique, naturel, surnaturel, tous les problèmes que nous pouvons confronter ou qui nous confrontent, eh bien, ils reviennent tous à cette question du péché. Le fait, c'est que nous sommes sur une planète qui est en train de mourir. On peut lire dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 20, Romains chapitre 8 et verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ça est une expression des conséquences du péché sur notre planète dans le sens naturel. Il n'y a rien qui fonctionne de la façon que ça fonctionnait à la création. À la création, tout était parfait. Mais depuis, ah ben non, on est entré dans plein de changements. Donc, sans l'aide d'homme, sans l'aide de nous, ça ne va pas. Et nous, quand on intervient, on ne fait qu'empirer les problèmes. Okay? Donc, il ne faut pas penser que si l'homme n'existait pas, que la planète ira mieux. Bon, peut-être mieux, mais ça n'ira pas de toute façon. Okay? Parce que la planète est en train de mourir. Les changements climatiques s'aggravent, s'accélèrent, mais ne sont pas nouveaux. Hein, on dit, oh, le surchauffement de la planète et tout ça. Oui, mais ça a commencé il y a longtemps. Et aujourd'hui, on voit ça. On le constate plus parce qu'on fait plus attention. Mais ça ne change rien. Les problèmes sont toujours là. Le soulèvement des montagnes, puis l'érosion, l'expansion des déserts, la disparition des espèces animaux et végétales. Il y a 10 000 ou plus, je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais il y a 10 000 maladies chez les plantes, chez les animaux, chez les hommes. Puis les ponts et les bâtiments s'effondrent. Tout ça en rapport avec le péché et les conséquences du péché. C'est le monde dans lequel nous vivons. Tout meurt. Ça, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. Sans entretien, sans l'addition des matériels, sans main-d'œuvre, tout tombe en ruine. Tout trouve le niveau le plus bas. Donc, quand on conduit la voiture, des fois, je mets quelque chose par terre parce que je sais si je le mets sur le siège, il va tomber. Je le mets le plus bas. C'est la position où il va arriver de toute façon. Hein? Tout est en train de mourir, de tomber en ruine. Alors, le péché d'Adam a été transmis à travers les siècles. Vous êtes pécheurs et vous avez péché. Et là encore, nous pouvons lire, je ne vais pas lire toutes les phrases, mais juste les petites résumés dans Romains chapitre 5. Verset 15, « Par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts. » Et quand il dit « beaucoup », il veut dire « tous ». Verset 16, « Après une seule offense, donc Adam, le jugement est devenu condamnation. » Condamnation pour tous. Verset 17, « Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. » Verset 18, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Verset 19, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup, et ça veut dire tout le monde, eh bien, beaucoup étaient rendus pécheurs. vous-même, vous êtes en train de mourir. Ce n'est pas une question de si vous allez mourir, si je vais mourir, mais c'est une question de quand nous allons mourir et comment nous allons mourir. Tous meurent. Ça, c'est partie de notre existence. Alors, nous avons trois ennemis. Il y a le monde. C'est un peu plus difficile à définir, mais je vais lire 1 Jean chapitre 2. Vous pouvez chercher si vous voulez. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est la volonté de Dieu? De croire en son Fils. Okay? Mais le point, c'est qu'il y a une opposition entre le monde, qui est temporaire, qui est mortel, et Dieu, qui est éternel, qui est vie. Un autre ennemi, c'est la chair. Quand on dit la chair, on parle de notre humanité, de notre cœur pécheur. On lit dans Jérémie 17:9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Eh bien, chacun va dire, oh ben moi je me connais, moi je me connais. Eh bien non, nous ne connaissons pas la profondeur de notre être parce que tout le monde a le même cœur de pécheur. On pourrait, n'importe qui pourrait faire n'importe quel péché si on se permettre de le faire parce qu'on a le même intérieur. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 19 et une partie du verset 20, Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Ça c'est nous. Dans notre état naturel, nous sommes comme ça. Oh, mais pas moi, si chacun est pareil dans ce domaine-là. Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut tenter. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc là, je parlais de la chair, mais aussi le diable. Le diable veut votre perte. Il veut votre destruction. Il tente, il trompe, il remplit le cœur avec de mauvaises intentions. Il se déguise afin d'obtenir avantage sur les gens. Il obscurcit et empêche la vérité. Donc, il est actif pour causer et semer la pagaille dans notre planète, dans nos vies. 1 Pierre 5, 8, nous lisons, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il veut détruire. Apocalypse 9, 11, « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » Donc, traduction « destructeur ». Le diable est destructeur. Dans Jean 8, verset 44, il a été meurtrier, destructeur, hein? Meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, quand on revient dans la Genèse, qu'est-ce qu'on voit après le péché d'Adam? et d'Ève. On voit dans le chapitre 4 le meurtre, on voit la violence, on voit la polygamie. Dans le chapitre 5, on voit la mort de tout le monde, à l'exception de Enoch. Enoch. Difficile à prononcer ce mot-là. Dans Genèse 6, on a la violence et l'immoralité avant le déluge. Dans Genèse chapitre 11, on a la désobéissance à Babel. Dans Genèse chapitre 14, on a la guerre et l'oppression. Et puis, à travers le reste du livre, on voit beaucoup, on voit l'égoïsme, immoralité. J'allais chercher ce mot en français, c'est rapine ou viol. On a l'idolâtrie, on a l'esclavage, on a l'inceste, la tromperie, plein de choses qui sont les conséquences et les pratiques du péché. Donc, quand nous évangélisons, nous voulons présenter aux gens, à nos interlocuteurs, l'importance, la profondeur et l'offense du péché. Dieu est offensé par le péché. Et on a lu les versets tout à l'heure. Adam a mangé quelque chose en désobéissance. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il a mangé, mais l'attitude d'avoir mangé. Il s'est rebellé contre le règne de Dieu. Et la Bible dit que ça, c'était la plus grande offense. Nos péchés, qui sont multiples, ne sont pas aussi graves que le péché d'Adam. La conséquence du péché d'Adam a fait en sorte que toute l'humanité meurt. La conséquence de mes péchés, c'est que je vais mourir. Le péché est grave. Il n'y a pas d'excuse. Il ne faut pas le dire, « Ah, mais c'était qu'un petit péché. » Ce que Adam a fait, c'était un petit péché. Et c'était tellement grave. Chaque péché a une valeur négative infiniment offensif à la sainteté et la perfection absolue de Dieu. Chaque péché. Donc, le mieux que nos interlocuteurs, hein, le mieux que l'autre personne comprend l'offense contre Dieu, le plus profond qu'il comprend sa culpabilité, eh bien, le plus que cette personne va apprécier le don de la grâce de Dieu. Le plus il comprend le problème, le plus il va apprécier la solution. Donc, on va lire Romains chapitre 5, encore verset 20. Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Donc, pour qu'on comprenne bien le problème. D'accord? Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand on comprend bien notre offense contre Dieu, eh bien, sa grâce abonde envers le croyant. Aussi, on voit dans une des circonstances de vie de Jésus, dans Luc chapitre 7, je ne lis pas toute l'histoire, juste la fin, Luc chapitre 7, versets 47 et 48, Luc chapitre 7, verset 47, c'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonner, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ce qui était, tes péchés sont pardonnés. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut pardonner nos péchés. Donc c'est pour combler cette écart moral infini, parce que quand on parle du péché, on parle de ce qui est moral, et c'est une écart infini entre chaque personne et Dieu. Donc c'est pour combler cette écart moral infini que Christ est venu dans le monde à cause de nos péchés, pour céder sa vie comme sacrifice expiatoire afin de nous racheter de nos péchés et nous pardonner et nous rapprocher de Dieu. Et tout ça sur la seule base de la grâce. Donc c'est une grâce infinie parce que l'offense est infinie. Et c'est une grâce qui n'a, que nous ne méritons nullement. Et là encore, on voit dans la Genèse, à partir du chapitre 3, donc verset 15, la postérité de Ève, donc plus tard de Christ, écrasera la tête de Satan. Chapitre 9, versets 8 et 9, l'arc-en-ciel représente la promesse de Dieu. Chapitre 12, verset 3, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Chapitre 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham était sauvé par la foi. Il était sauvé par la foi sans les œuvres de la loi. Et c'est intéressant de remarquer que la loi n'était donnée que 500 ans plus tard. Évidemment, Abraham était sauvé sans les œuvres de la loi. C'était par la foi. En résumé, nous reconnaissons, nous, j'espère que chacun d'entre nous, reconnaissons bien tristement que nous sommes pécheurs, coupables de plein de choses honteuses. Et vraiment, si l'amour de Dieu n'existait pas, nous serions sans espoir. Cependant, et c'est très important, depuis toujours, c'est Dieu qui agit en premier. Avant le péché, Dieu entretenait une relation étroite, intime, bénéfique avec Adam, jusqu'au péché. Puis, aussitôt que Adam a péché, c'est Dieu qui est venu à sa recherche. Adam s'était caché et Dieu est venu vers lui. Puis Dieu lui a parlé de son péché dans l'optique de susciter en Adam quoi? Une confession, la repentance et la confiance. Le fait, c'est que Dieu est toujours à la recherche des hommes. Il est actif. Il attire et il convainc de notre culpabilité, toujours dans l'optique de susciter de notre part la confession, la repentance et la confiance en son Fils Jésus-Christ. Donc, je vais lire Romains chapitre 5, versets 15 à 19. Romains chapitre 5, verset 15, « À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, a-t-il été abondamment répandu sur beaucoup. » Je coupe ces petites phrases-là. Verset 16, « Le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » Verset 17, « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Verset 18, « Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Donc, ça veut dire que le salut est disponible à tous. Okay? Mais ça ne veut pas dire que tous sont sauvés, mais que tous peuvent être sauvés. Et verset 19, « Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Et là, beaucoup veut dire tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ seront rendus justes. L'œuvre primaire, principale de l'Église, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Puis, pour ceux qui ont cru, c'est d'assurer la formation de ceux qui ont cru pour qu'ils soient des vrais disciples du Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent vivre pour plaire à Dieu. Donc, pour les prochaines quelques semaines, on va approfondir un peu ce sujet, le problème, le péché, les conséquences du péché. On va approfondir ça et puis on va se lancer dans d'autres thèmes théologiques, mais en toujours essayant de faire des applications pour nous aujourd'hui. OK? Donc, que le Seigneur vous bénisse et à réfléchir sur cette introduction sur la question du péché. Parce que c'est là, quand vous parlez avec quelqu'un, c'est pas parce que, voilà, Dieu va vous rendre milliardaire ou que Dieu va vous donner la santé ou que Dieu va faire ceci ou cela qu'une personne devrait venir à Jésus, mais c'est pour que ses péchés soient pardonnés. Et le mieux qu'il comprend le problème, le mieux il va apprécier l'Évangile. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.